RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Laurent Jacobelli, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale et porte-parole donc, de votre parti. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, merci à vous.
François Bayrou a prononcé son discours de politique générale pendant une heure et demie. À la fin de ce discours, tous les partis se sont exprimés. Jean-Philippe Tanguy, le député de la Somme de votre parti, était très énervé contre le Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a tant déplu dans ce discours ?
Écoutez, tout d'abord, excusez-moi de le dire, et j'espère ne pas être impoli, mais c'était long. Beaucoup de mots pour peu d'idées. Moi, je propose un résumé en 30 secondes de ce qu'aurait pu dire M. Bayrou. Je suis macroniste et je le reste. Ce qui était énervant, je dirais plutôt irritant, dans le discours de politique générale du Premier ministre, c'est qu'il a fait du « en même temps » en permanence. Je veux moins d'organismes, de comités, etc., qui coûtent beaucoup d'argent. Et en même temps, dans l'espace de son discours, il en a créé trois. Il nous explique qu'il y a un problème d'immigration, notamment à Mayotte. Et en même temps, il nous explique qu'il faudra mettre les moyens pour intégrer et accueillir. Bref, on a l'impression qu'il ne sait pas où il va, qu'il a voulu contenter tout le monde, un petit peu, en saupoudrant des mesures. Au final, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Le pire est à craindre, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on continue la politique macroniste, qu'il avait d'ailleurs soutenue. Hein. Il a soutenu Emmanuel Macron, et qu'on continue à ne pas répondre aux problèmes des Français. Parce qu'il n'a pas répondu aux problèmes des Français. Je rappelle que la première inquiétude des Français, c'est leur pouvoir d'achat, pas une réponse, le mot n'a même pas été prononcé pendant le discours du Premier ministre.
Sur le déremboursement quand même des médicaments, l'exécutif ne va pas poursuivre cette politique qu'il avait décidée, enfin le précédent gouvernement.
Non, il n'aura pas cette indécence. Donc, au moment où il nous propose de maintenir l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits aux migrants clandestins, au même niveau, voire en augmentation, à plus de 1 milliard d'euros. Mais sur le reste, pas de garantie. Sur les retraites, un flou total, un numéro d'équilibriste digne de Zavatta. Il nous explique qu'il va créer un conclave, bon, je sais pas, peut-être se prend-il pour le Saint-Père, de 3 mois avec des partenaires sociaux.
Pour parler des retraites, on va revenir sur les retraites dans un instant.
Mais c'est important.
Vous avez dit d'ailleurs, vous, finalement, il reste macroniste. Et Jean-Philippe Tanguy a évoqué cela aussi. Il a demandé à François Bayrou s'il était enfin du côté du peuple ou toujours du côté de Macron. Est-ce que ça n'est pas une drôle de question tout de même ? D'abord, il est Premier ministre, donc il travaille nécessairement avec le président de la République. Et puis enfin, est-ce que ça signifie que être du côté de Macron, c'est être contre le peuple ? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron veut intentionnellement nuire au peuple français ?
Non, je prendrais le problème dans l'autre sens. Je pense que le peuple ne veut plus d'Emmanuel Macron. Le peuple ne veut plus d'Emmanuel Macron. Il l'a dit aux européennes, il l'a dit aux législatives, il le dit dans tout un tas de sondages. La politique d'Emmanuel Macron aura méthodiquement déconstruit la France et méthodiquement appauvrit les Français. Et donc, évidemment, les Français, excusez-moi l'expression, en ont ras-le-bol. Ils veulent le changement, ils veulent une rupture. C'est ce qu'ils veulent. Ils le prononcent dans la rue, ils le prononcent dans les urnes, ils le prononcent en permanence. Et patatras, ils ont le plus macroniste des macronistes qui devient Premier ministre. Alors, il devient Premier ministre en disant qu'il va parler à tout le monde, mais il est quand même chimiquement pur en matière de macronisme.
Le seul moyen d'avoir un Premier ministre qui tienne un peu, c'est de trouver un compromis. Mmh. Parce que si c'est quelqu'un de chez vous, ça tient 3 jours. Si c'est quelqu'un du camp de LFI, ça tient 3 jours aussi. Donc il faut trouver un compromis.
Mais le compromis, il n'est pas là. En fait, le compromis de l'eau tiède ne marchera pas. Il faut un coup de boost au pouvoir d'achat. Et ce n'est évidemment pas ceux qui pensent qu'il faut toujours travailler plus et plus longtemps qui vont le mettre en marche. Il faut alléger le poids fiscal des entreprises et des individus et des particuliers. Ce n'est évidemment pas ceux qui les ont matraqués fiscalement qui vont le faire. Il faut une politique d'immigration beaucoup plus restrictive. Ce n'est pas ceux qui, depuis des années, ont encouragé l'avenue de la terre entière dans notre pays qui le feront. Je vais vous dire, le seul compromis possible, il passe par les urnes. Une nouvelle majorité, de nouvelles législatives et qu'enfin l'Assemblée nationale ait bloc majoritaire qui puisse conduire une politique de rupture, une politique qui a du sens, une politique que veulent les Français.
Mais en attendant, il faut effectivement un budget. Donc on attendait le Premier ministre sur le dossier des retraites. Alors il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites, vous le disiez, mais une remise en à plat, enfin un chantier avec des partenaires sociaux, sans totem ni tabou, a dit M. Bayrou. Faut-il y voir là des raisons pour vous d'espérer quand même ?
Il faut voir une gigantesque mystification. Le Premier ministre veut à bon prix, à vil prix dirais-je, obtenir les faveurs du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste en a marre d'être associé à la France Insoumise, à ses excès, à certains propos antisémites ou pro-Hamas. Et donc, le Parti Socialiste veut se donner l'image à nouveau d'un parti de gouvernement et donc parle au gouvernement pour redorer son blason. Le prix à payer est le prix de la trahison de leurs électeurs, mais ça, ils le font à peu près à chaque élection, donc c'est pas un problème.
Mais vous êtes en train de dire que, pardon, que c'est du donnant-donnant.
Mais bien sûr,
que
je fais semblant de parler, je fais semblant de parler des retraites, vous faites semblant de négocier, et on s'en sort tous. Ceux qui ne s'en sortent pas, c'est ceux qui vont devoir
donc
travailler.
Donc c'est de la politique de l'enfumage.
Oh oui, on peut le dire comme ça, c'est surtout la pire des politiques politiciennes, mais je pense que personne n'est dupe. Écoutez bien le Premier ministre, il pense qu'il faut une réforme des retraites. Il pense qu'on n'a pas l'argent pour financer les retraites. Et il dit qu'il est prêt à négocier, mais enfin, il est prêt à négocier en disant qu'il veut maintenir la réforme. Il va enfermer dans une salle pendant 3 mois, c'est lui-même qui le dit, des partenaires sociaux. Et il dit, si à la fin, ils n'ont pas de solution, on appliquera la réforme en l'état. Vous avez tous très bien compris ce qui va se passer. À la fin, évidemment, il y aura 3 ou 4 versions différentes et il dira « Ah bah j'ai essayé, on garde la réforme des retraites » et les socialistes retourneront dans leur circonscription en disant « On a fait ce qu'on a pu, on a un parti de gouvernement ». Je pense que ce vieille recette ne fonctionne plus.
Ce qu'a dit François Bayrou, c'est qu'un certain nombre de partenaires sociaux affirment qu'ils ont des pistes pour une réforme, je vais citer, socialement plus juste, tout en étant équilibré. Et que, par conséquent, il faut étudier ces pistes, a-t-il dit. Oui. Vous n'êtes pas, vous-même, la question n'est pas là, mais le parti, le Rassemblement National, n'est pas un partenaire social, mais vous êtes hostile à cette réforme des retraites. Vous n'avez pas de pistes pour une réforme sociale plus juste, tout en étant... alors pourquoi les partenaires sociaux ne l'auraient pas ?
Parce que tout tient à l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'équilibre financier. Et même la nouvelle réforme des retraites, on nous explique qu'elle ne sera pas à l'équilibre financier. Donc, le magicien qui va arriver et qui va dire « j'ai une réforme plus sociale et à l'équilibre », demain matin, il n'existe pas. Il faut accepter certains déficits pendant quelques années, mais il faut traiter les problèmes de fond. Problèmes de fond, ils sont doubles. La productivité et le nombre d'emplois en France d'un côté et la natalité de l'autre. Si ces deux paramètres continuent de se détériorer, chaque année, on nous annoncera qu'il faut travailler un an de plus. Et d'ailleurs, le comité d'orientation des retraites nous explique d'ores et déjà que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron ne sera pas suffisante. Et donc, on nous prépare à l'idée de, après 64 ans, ça sera 66, puis 68, puis 70, pourquoi pas. Mais toujours en déséquilibre. Il faut une réforme des retraites qui non pas réduise les droits des salariés français, mais prenne en compte ces deux paramètres. La productivité, ça veut dire moins de normes, moins d'impôts de production, moins de charges sur les entreprises. Et la natalité, ça veut dire accompagner, aider les familles françaises qui veulent faire des enfants.
Donc si on vous écoute ce soir, rien ne vous va. Mais pour autant, vous n'allez pas voter la censure. Enfin, en tout cas, sur ce discours-là.
Comme j'espère être quelqu'un d'honnête, je vais vous dire, il y a des déclarations qui vont aussi dans le bon sens. Quand il parle de la banque de la démocratie, par exemple.
Oui, c'était une demande de Marine Le Pen.
C'était une demande de Marine Le Pen. C'était d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron. Il ne l'a jamais appliqué. La banque de la démocratie, c'est une banque, on va dire, ou l'équivalent.
C'était une promesse de François Bayrou lui-même, d'ailleurs,
aussi,
il y a plusieurs années.
Qui finance les campagnes pour éviter
l'humiliation,
tout financement un peu douteux, ou que certains partis légitimes ne trouvent pas assez d'argent pour faire campagne. Ça va dans le sens de la démocratie. La proportionnelle va dans le sens de la démocratie. Sur le point de vue institutionnel, mais c'est pas étonnant du MoDem, puisqu'on a toujours partagé ces points avec François Bayrou et ses équipes. Oui, il y a peut-être du mieux à espérer, s'il arrive à le faire. Mais sur le reste, honnêtement, on reste sur notre faim parce qu'il a fait un numéro d'équilibriste qui ne peut contenter personne, surtout pas les Français qui ont regardé, qui ont dû franchement s'ennuyer en ne voyant aucune réponse concrète à leurs problèmes quotidiens.
Mais quand Jean-Philippe Tanguy, donc, qui répondait tout à l'heure à François Bayrou à l'Assemblée nationale, dit « nos lignes rouges demeurent et notamment sur la question des hausses d'impôts », est-ce que c'est une manière d'essayer de maintenir l'instabilité afin de faire pression quoi, en laissant planer la menace d'un vote de censure ?
D'abord, la censure n'est pas une menace, c'est un outil institutionnel qui répond en général à un autre outil institutionnel.
C'est un outil, mais ce n'est pas un outil amical pour celui qui la reçoit. Donc.
Je le concède, mais c'est un outil institutionnel et démocratique. On va pour être très clair, nous ne souhaitons pas le désordre, nous ne souhaitons pas l'instabilité. Vous le savez, c'est même contraire à nos fondamentaux.
Pourtant, avez participé à cette instabilité.
Mais ce n'est pas l'instabilité, selon moi. Mais en revanche,
voter la censure,
nous serons toujours fidèles au mandat que nous ont donné nos électeurs. Si le prochain budget est un budget Barnier 2.0, avec le matraquage fiscal de 40 milliards qui nous était promis, avec la non-prise en compte d'un certain nombre de demandes de nos compatriotes, notamment sur la sécurité, sur l'immigration, eh bien, les mêmes causes ayant les mêmes effets, M. Bayrou suivra le même chemin que M. Barnier. Si, en revanche, il accepte certains de nos amendements, s'il entend ce que nous avons à lui dire et que ce n'est pas le cas, eh bien, nous agirons en élus responsables.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous ne dites pas, finalement, comme disent les jeunes, le Rassemblement national n'est plus dans le game? Parce que Michel Barnier, il négociait avec vous, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, il discute avec les socialistes. Et les socialistes, d'ailleurs, vous disent, ils laissent entendre qu'ils ne voteront pas la censure, on verra, pour ne pas livrer la France au maître chanteur du Rassemblement national.
Oui, bon, écoutez, moi,
ce que je veux dire, c'est que vous n'avez plus votre capacité de faire la pluie et le beau temps. Bah,
un peu quand même, vous savez, parce qu'en votant la motion de censure, sans nous, elle ne serait pas passée. Et grâce à nous, grâce au vote déterminant des élus du groupe de Marine Le Pen, les retraites ont bien été revalorisées de 2,2% au 1er janvier. La baisse du coût de l'électricité a bien été de 14%, puisqu'il n'y a pas eu de hausse de taxes. Et ça, c'est grâce à la censure. Donc je pense qu'on a un rôle déterminant. Et très sincèrement, je pense que M. Bayrou sait très bien qu'avec la censure du Rassemblement national, son gouvernement est en danger. Donc tout ça, ce sont des diatribes, tout ça, ce sont des jeux d'hémicycle. Nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale, le premier parti de France, et nous ferons entendre la voix de nos 11 millions d'électeurs. Que cela plaise ou non, aux socialistes ou pas. Une fois encore, notre but n'est pas de déstabiliser. Nous, on attend patiemment la prochaine dissolution et la prochaine présidentielle, pour avoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement alignés sur le programme du Rassemblement national. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, puisque ce n'est pas le cas, faisons en sorte que l'intérimaire, François Bayrou, ait la politique la plus acceptable ou la moins critiquable possible.
Un Premier ministre est par définition intérimaire.
C'est pas faux. Donc, certains plus que d'autres, avons-le.
Oui, enfin, disons que l'intérim est plus court, voilà. Mais le statut d'intérimaire est le même. Vous avez évoqué il y a quelques instants ce qui, finalement, pouvait vous plaire dans les propos de François Bayrou. Vous avez parlé de la proportionnelle, de la banque de la démocratie. En revanche, vous n'évoquez pas l'immigration ce qui pourrait vous convenir. Vous n'avez pas l'impression qu'il a essayé d'avoir un discours relativement ferme quand il dit, par exemple, sur cette question, l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse?
Oui, mais ce sont des belles phrases qu'on a entendues mille fois. Et d'ailleurs, quand on a parlé d'immigration, très vite, il s'est cantonné à en parler à Mayotte. C'est vrai qu'il y a un vrai problème à Mayotte, hein, où 50%, en tout cas c'est ce qui est estimé, de la population serait une population d'immigrés clandestins, avec tous les problèmes que cela peut causer à ces mêmes immigrés et à la population mahoraise. Mais il a très vite quitté le débat général. On le sent pas à l'aise sur la question, mais est-ce qu'il va y avoir une grande loi d'immigration comme on nous l'avait promis? Pas un mot. Est-ce qu'il va y avoir remise en cause de l'aide médicale d'État, cette fameuse aide aux migrants clandestins pour qu'ils soient soignés gratuitement? Pas un mot. Est-ce qu'il va y avoir une refonte du droit du sol? Pas un mot. Le regroupement familial? Rien. Bref, il ne s'est pas avancé du tout. Il nous a fait du Macron, c'est-à-dire que vous soyez un fanatique de l'immigration ou que vous critiquiez l'immigration actuelle, chacun y aura perçu quelques signaux, mais rien de concret. Si ceux qui nous regardent espèrent une vraie réforme de l'immigration pour qu'enfin on gère les flux, pour qu'enfin s'arrête l'immigration de guichet social qui amène avec elle l'insécurité et la perte d'identité, eh bien ce soir, ils seront évidemment tout à fait déçu. Peut-être M. Retailleau le premier, d'ailleurs.
Alors justement, Bruno Retailleau était au Havre hier pour une saisie record, je crois, de 47 000 tonnes. Je ne sais plus, vous me dites si je corrige.
47,
corrigé.
Je crois, plutôt, ou 47 tonnes. Mais 47
tonnes.
47 tonnes, ça me paraît.
Oui, c'est pardon. oui, 47 tonnes,
bon, disons beaucoup de cocaïne. C'est peut-être plus prudent.
Voilà, et Gérald Darmanin qui veut ouvrir une prison pour les narcotrafiquants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que quand même, on prend la mesure de la gravité du pouvoir de nuisance de ces narcotrafiquants qui parfois sont des vraies multinationales à l'étranger?
Sur les paroles, il n'y a rien à redire. Oui, il y a un danger aujourd'hui que la France devienne un narco-État. Oui, la puissance des narcotrafiquants devient phénoménal en termes économiques, mais en termes sociaux aussi, hein, puisque c'est eux qui gèrent la vie de certaines cités, la progression sociale de certains jeunes. Bref, ils ont pris une place dans notre société qui n'est pas acceptable. Évidemment, il faut prendre des mesures, mais est-ce que vous croyez vraiment que si on ne donne pas plus de droits au personnel pénitentiaire, notamment un droit de fouille, si simplement on change de prison les 100, pourquoi 100 ?
Oui, mais c'est
plus grand trafiquant. Est-ce que vous croyez que ça va changer les choses ? Et puis une fois encore, il y a la parole, on attend les actes, et puis il y a celui qui prononce la parole. Celui qui prononce la parole, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, qui a lancé un plan XXL contre les narcotrafiquants lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. À partir du moment où il a lancé, les crimes ou tentatives d'assassinat liés au narcotrafic ont augmenté de 60%. Il n'a en rien fait baisser la consommation et la vente de drogue dans notre pays. Il y a un problème beaucoup plus général que malheureusement...
Donc il y a le volet consommation qui n'est pas géré.
Mais importation, consommation, oui, flux financier, problème de peine prononcée, parce qu'il peut créer des prisons spécifiques. Si les juges libèrent les narcotrafiquants du jour au lendemain, M. Darmanin ne pourra rien faire. Donc il y a tout un écosystème. Il faut agir dans tous les aspects de cet écosystème de la drogue. Et le plan de M. Darmanin est quand même bien faible, même si on ne peut que se réjouir que la question soit mise au cœur des préoccupations.
Est-ce que la mort de Jean-Marie Le Pen va changer l'avenir du Rassemblement national ?
Non, je crois que l'avenir du Rassemblement national s'écrit avec Marine Le Pen depuis 2011 et qu'elle a dessiné l'avenir d'un parti qui est amené à gouverner le pays avec fermeté dans ses principes, avec sagesse et avec l'écoute de la population. Je crois que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les deux seuls politiques qui soient dans les 50 premiers du classement d'un célèbre journal français, ce soit Jordan Bardella en 10e position et Marine Le Pen en 11e, c'est que le programme que nous annonçons est celui qu'attendent les Français. Donc je pense que Jean-Marie Le Pen a apporté à l'histoire politique de notre pays, mais que le destin du Rassemblement national... Bah, d'abord, il a créé le Front National. Il a apporté au cœur du débat des thèmes qu'il était presque honteux d'évoquer. Comme
mais vous auriez adhéré au Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen ?
À titre personnel, non. Mais pour autant, en passionné de politique, je dois bien reconnaître l'impact qu'il a eu.
Il a abordé des sujets, vous dites qu'ils étaient honteux, mais il les a parfois abordés de manière honteuse aussi.
C'est vrai, il faut le dire, mais il avait, je crois, été lanceur d'alerte, quand même, retenons ça, sur beaucoup de choses, sur le risque de l'islam politique, sur les dérives de l'immigration, notamment en termes d'insécurité. Et le Rassemblement national a su, autour de ces thèmes, mais d'autres aussi, comme le pouvoir d'achat, préparer un programme sérieux, un programme de gouvernement, un programme chiffré, un programme réalisable. C'est ce qu'incarne Marine Le Pen et c'est ce que nous incarnons pour les Français.
Merci Laurent Jacobelli.
Merci à vous.
Merci. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine.
Bonne soirée, à la semaine
prochaine.
À vous.